À 13h22 sur France Inter, c'est Où de mon amour, une jolie balade en forêt instructive et reposante, cher Denis Chessou.
Avec un chêne en vedette et Laurent Tillon, son ami. Merci Frédéric Barrère.
En fait, c'est quoi un arbre ?
C'est Où de mon amour.
En fait, c'est un multiple organisme qui est assez complexe et qui fait que chaque branche qui est raccrochée à une autre est presque indépendante les unes des autres. Et elle va pouvoir s'exprimer.
Avec Denis Chessou.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que voilà, l'arbre, il n'a pas de système central, il n'est pas comme nous, il n'a pas un cœur, il n'a pas certains organes qui remplissent une fonction pour l'ensemble du corps. En réalité, chaque branche, chaque feuille remplit l'ensemble des fonctions.
Sur France Inter.
Alors on le sait, les arbres ne montent pas au ciel, mais ce chêne-là, celui de Laurent Tillon, va nous faire monter haut, en tout cas je l'espère, en émotion. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite et qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en particulier des arbres. Aujourd'hui, à la technique, il y a Benjamin Troncin et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Bestugia qui réalise l'émission. Oh, mais qu'ils sont étranges, ces petits personnages à deux pattes qui s'agitent là, tout en bas, se dit le renard, museau tapis dans l'herbe fraîche de la colline. Il sent avec bonheur sur les chines les premières caresses du soleil de printemps. Dans les buissons, merles et merlettes tressent dans l'ombre leurs petites corbeilles. Et dans les arbres qui dominent, le bruant zizi envoie sa trille quand roucoulent et paradent les ramiers. Les grenouilles, crapauds, tritons ou salamandres sortent de leur cachette hivernale terrestre, affolés par l'amour. Ils entament leur migration vers les étangs, les mares de fraîches eaux, au risque d'être écrabouillés en traversant les routes. Alors, vivent les bénévoles, les associations qui les ramassent dans leurs seaux. Eh ouais, c'est le temps des copains, de l'amour et de l'aventure, mais que font donc là, dans la plaine, ces bons hommes étranges et incompréhensibles ? Et pourquoi, se dit le renard, ne l'aimeraient-ils pas, eux aussi, cette nature ? Bon, qu'ils s'ingénient pourtant à méconnaître, bousculer, ravager, maltraiter, empoisonner, aménager, cartographier, googliser, hein, pour souvent toujours dominer. Et je sais que certains préfèrent Mars, planète morte, à leur planète encore vivante. Mais quand même, une sorte d'amour vache et brutal en fait, qui guette avec joie les papillons tout en exterminant la moindre chenille, qui adore les hérissons tout en leur faisant bouffer l'asphalte, qui aime regarder leur toile chez les autres mais écrase les araignées. Et puis il y a ceux aussi qui ont tous les bons mots du développement durable en magasin, mais qui veulent avant tout casser du verre, comme à Lyon, en déformant la pensée du maire avec des invectives pitoyables sur une journée sans viande à la cantine. Ouais, peuplade déboussolée dans un monde de trouvailles virtuelles, cybernétiques et artificielles, capable de tout remplacer, de repeindre sur écran en couleurs plus vives et plus intenses, cette nature en mieux et plus propre, tout en la dénaturant. Alors notre renard ne sait pas ce qui l'attend, piège ou fusil, ou même ce soleil bienfaisant qui lui réchauffe le poil au sortir de l'hiver, ne sera-t-il pas celui qui le carbonisera au cœur de l'été sec ? Alors, elle s'en doute, car on le dit rusé, même s'il ne sait pas lire les rapports du GIEC. Ouais, sous son poil roux, il ressent tout cela. Piège, haine et fusil, il connaît. Depuis toujours, c'est son lot, lui, qui aide les agriculteurs sans fiche de paye, qui se baffre de mulots, qui est une chignole à campagnole, régulateur d'espèces. Bouleversement climatique des milieux, bullying dans les écosystèmes. Pour l'instant, il a autre chose en tête. Il relève le museau et hume. Un doux courant d'air lui apporte de belles nouvelles. Passe furtivement dans les bois sa dame Hermeline. Alors va, ma renarde, et salue les engrains, ainsi que Tibère le chat si tu les croises. Va, va, Hermeline. Et nous, eh bien, nous irons, vous l'avez compris, dans les bois, en forêt de Rambouillet, saluer Kersus le chêne, le compagnon de Laurent Tillon.
Spider ship at the harbor gate. So the mooring, when the anchor dropped with the iron weight. Where does the will, does the wanting? Where does the heart, there's something? Where does the will, does the wanting? A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. Heard a whispering with
the ballot cast and the judgment flow. Hug on calling, thought I spied a ship at the harbor gate. So the mooring, when the anchor dropped with the iron weight. Where is the will, does it want it? Where is the heart, there's something? The darkness from you. Heard a whispering with the ballot cast and the judgment flow. Heard a wailing when the world was cold, it was cold no more. Where does a wish, does a yearning? The darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you.
Choisi par Thierry Dupin, c'était Pierce Faccini, un homme d'ailleurs qui habite au pied des Cévennes, du côté de Saint-Hippolyte. Donc c'est plutôt une région, il y a du chêne, mais c'est quand même plutôt une région où il y a du châtaignier. Un chêne, un homme, une histoire. Il est là, il nous regarde du haut de ses 32 mètres.
C'est assez marrant comme histoire parce qu'en fait, donc j'étais vraiment sur cette zone de chemin. Je venais de galérer comme pas possible à pédaler dans la semoule sur le sable. Voilà. Et puis j'arrive ici et pile sur le chemin là, devant ce secteur de forêt, la chaîne saute. Et là, donc d'un seul coup, tout s'arrête. Et puis je lève la tête un peu désespérée et je vois ce secteur de forêt. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu tout de suite une attraction vers ce secteur de forêt que j'ai trouvé absolument magnifique.
De la chaîne au chêne, de la chaîne de vélo à Quercus, donc le chêne heureusement que l'on n'abat pas, eh bien, il y avait un jeune garçon qui avait 14 ans à l'époque, il en a 30 ans de plus aujourd'hui, il venait de l'Eure-et-Loire et donc il s'est pris d'amitié, oui, je dis bien d'amitié, pour ce chêne. La vocation de naturaliste et de biologiste forestier de Laurent Tillon s'est affirmée là. Alors là, nous sommes en forêt domaniale de Rambouillet, dans les Yvelines, 14 000 hectares, gérés par l'ONF, dont fait partie Laurent. Il protège d'ailleurs son ami, aussi, ne disons pas précisément où ses racines le portent. Donc, élancé, de belles circonférences, buveur de lumière, une ronde d'oiseaux, allons voir l'arbre des sels, parce que quaire, ça veut dire beau, Mais nous sommes donc en forêt de Rambouillet. Nous sommes au pied de Quercus, grâce à Laurent Tillon, et d'ailleurs son livre, Être un chêne, aux éditions Actes Sud. Respirez.
Alors, Denis, vous êtes un privilégié.
Ouais, je sais.
Parce que je vais pas y emmener grand monde dans ce secteur de forêt, parce que c'est mon chêne, j'ai pas forcément envie que beaucoup de monde vienne à ses pieds, parce que, on a tissé une relation particulière, que là je partage avec vous, mais je vais pas le partager avec tout le monde.
Alors là, on s'approche de Quercus. Alors, il a son grand pied comme un éléphant, c'est toujours ça, les chênes. Alors moi, vous voyez, ça fait des mois qu'on ne se serre plus la main. Vous voyez, j'ai presque envie de lui serrer la branche, mais comme elles sont un peu hautes, voilà, je mets...
Moi, je vais poser mes mains sur
c'est ce qu'on
écorce,
fait, là.
Voilà, un petit contact sur son écorce rugueuse.
Sa rugosité nous fait bien sentir sous les doigts qu'effectivement, il est bien présent et ça nous fait bien nous sentir vivants, en fait.
je trouve le contact avec cette écorce.
Mais pourquoi, en fait, vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre? Pourquoi ça a été lui et pourquoi pas donc un autre chêne voisin, quoi?
C'est assez mystérieux. Alors, il y a une part de conscient et d'inconscient dans cette histoire. En fait, la partie consciente, c'est que, effectivement, j'arrivais de ce chemin qui n'est pas très très loin. Et puis, la première fois, quand ma chaîne a sauté, j'ai eu envie de revenir dans cet endroit qui me paraissait très calme et qui, finalement, m'apaisait. Et c'est vrai que les deux ou trois fois suivantes, quand je suis venu, je suis entré un petit peu dans cet espace de forêt très particulier. J'aurais pas dit que c'était comme dans une cathédrale ou comme dans un espace dans lequel, à la fois, on ose entrer et puis, en même temps, on n'ose pas élever la voix, on n'ose pas parler. On est là dans une atmosphère assez feutrée. Moi, je suis rentré et puis je me suis posé une ou deux fois. Et puis, en fait, ce chêne-là, il a une place particulière dans cet espace de forêt. Assez naturellement, moi, je venais jusqu'à son tronc et je me posais. Il y a comme une sorte de mini-siège au pied du tronc, à plusieurs endroits, en fait, à trois endroits particuliers. Et moi, j'aimais bien me poser dessus. Et en fait, m'asseoir contre lui, dos à l'écorce, les yeux fermés, j'en suis venu à réfléchir sur ma vie, sur ce que je voulais faire plus tard, sur certaines questions existentielles qui me taraudaient. Et puis progressivement, en fait, je pouvais pas m'installer ailleurs que contre cet arbre. Et puis je l'ai regardé de plus en plus. Il y avait une forme d'attractivité qui s'était un peu instaurée entre lui et moi. Et puis à un moment, la connivence était telle que ça pouvait pas être un autre en réalité.
Alors là, on est quand même face à un arbre qui nous regarde depuis 240 ans, puisqu'on est en 1780,
quelques années avant la Révolution française.
Bon, il a connu évidemment quelques épidémies, c'est une chose. Il a eu quand même pas mal d'insectes qui l'ont bien travaillé aussi. Quelle a été la chance de ce gland qui est sorti et qui a résisté?
Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait encore des animaux qui venaient pâturer dans les forêts. Et les forêts, d'ailleurs, elles n'avaient pas la tête qu'on leur connaît aujourd'hui. Non. C'était de la lande boisée. En fait, c'était de la lande sur laquelle on avait quelques arbres qui servaient à la fois de production de fruits, de glands, de faines dont se nourrissait le bétail qu'on amenait en forêt pour pâturer. Et puis, en même temps, ils avaient une fonction de création d'ombrage utile pour les animaux et de production de bois qui pouvait être utile, notamment pour se chauffer dans les villages voisins. Et donc, il y avait une quantité d'animaux, de prédateurs potentiels à l'époque qui devait être assez conséquente. Et quand on regarde le paysage qui est autour de nous, on a plein d'indices qui peuvent nous suggérer ce qui a pu arriver, notamment à notre ami Quercus. Par exemple, un petit peu plus loin, il y a un petit roncier, il y a quelques bribes de ronces qui restent, pas très loin du chemin. On peut imaginer que cette ronce, elle était présente sur une beaucoup plus grande surface, mais que la ronce, elle a besoin de lumière directe. Et qu'à partir d'un certain moment, quand les arbres ont poussé, du coup, elle avait moins de lumière et elle a petit à petit régressé. Mais en attendant, elle a probablement été là et elle a probablement profité de la lumière qu'il y avait pour bien s'étendre. Et un animal a dû, à un moment donné, sous ce que j'ai appelé l'arbre parent, le chêne d'origine qui a donné naissance à ce fruit, au gland qui après donnera Quercus, probablement qu'un animal est allé chercher ce gland pour aller le cacher à l'intérieur du roncier pour éviter qu'il se fasse dévorer et pour en faire une réserve.
Donc il y a eu un transport là.
Il y a eu un transport, très probablement, dans ce roncier. Et il n'a pas été le seul. Probablement que certains des chênes qui sont voisins à notre ami Quercus ont aussi bénéficié de ce petit transport pour les protéger. Et puis à un moment donné, effectivement, il a pu sortir un tout petit peu. Puis alors là, il a effectivement été soumis à tout un tas de d'organismes, d'espèces qui voulaient probablement profiter un petit peu de sa présence. On a presque chaque année, par exemple, l'émergence de chenilles qui viennent manger les feuilles des arbres, et en particulier de chênes. Ici, il y a une espèce qu'on trouve beaucoup, Tortrix viridana. Tortrix, cette petite chenille toute verte, qui donne après un papillon tout vert, qu'on appelle la tordeuse verte du chêne, et qui peut être présente parfois à hauteur de 1, 2, 3 millions d'individus à l'hectare. C'est considérable. Il faut imaginer la pression de prédation sur les feuilles de chêne au printemps, au mois de mai et quasiment tous les ans.
Et alors, ce qui est aussi toujours merveilleusement étonnant, parce que là, donc, on a ces 32 mètres d'un côté, Et puis, il y a tout ce qui se passe, évidemment, dans le sous-sol. Et alors là, c'est le internet des plantes et des arbres, ce que nous avait raconté il y a une vingtaine d'années déjà, donc Jean-Marie Pelt, avec ses échanges, avec ses rhizomes et avec donc les champignons qui vont échanger entre les arbres.
Et qui sont essentiels. D'ailleurs, en zone de forêt, il y a des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir jusqu'à 150 espèces différentes de rhizomes appartenant à 150 espèces différentes de champignons. Et c'est vrai que c'est vraiment essentiel pour les arbres et ça a plein de fonctions. Imaginez votre arbre là, il a une certaine forme de houppier. On peut imaginer que pour alimenter tout ce houppier, il y a un système racinaire très développé qui est assez grand. Sauf que ce système racinaire, il n'arrive pas à aller chercher les micro-particules qu'il y a dans le sol. Pour l'y aider, il s'octroie le soutien de tout un tas de micro-organismes, effectivement le mycélium des champignons. Et ces champignons ont la particularité, alors ils sont hyper fins, ça serait difficile de donner exactement la taille précise de ces mycéliums, enfin c'est de l'ordre de quelques microns, et donc en fait ils sont capables d'aller chercher les petites particules d'eau, les petites particules d'oligo-éléments qui sont inaccessibles pour les racines des arbres. Et ils lui amènent. Il lui amène jusqu'au système racinaire et puis après, c'est la sève qui fait le relais pour les monter jusqu'à l'arbre et jusqu'en haut du houppier.
Ayant acquis dans un coin de village une maison avec un beau jardin, un citadin s'aperçut un matin qu'il n'avait pas sur l'herbe assez d'ombrage. Il réveilla son jardinier dormant. « Trop de soleil durant l'été me gêne. Ne pourrait-on, dit-il, planter un chêne dont l'ombre ici serait un agrément ?» Le jardinier rit alors et réfute, « Cet arbre-là a mes 100 ans à pousser. »« Diable, fit l'autre, il nous faut nous presser. Nous n'avons plus à perdre une minute. »
Alors, il ne le sait pas, notre Quercus, mais il a failli devenir marin, parce que donc, époque de Louis XVI, et puis même avant, on avait besoin de mâts comme ça pour les navires.
Ah, il serait né beaucoup plus tôt, je pense qu'il n'aurait pas eu le même destin que celui qu'il a aujourd'hui. Ça, ouais. C'est assez clair. Et c'est vrai que il faut se souvenir que notamment tous nos rois qui avaient des ambitions guerrières, ça a été particulièrement le cas de Louis XIV. Louis XIV,
il était assez porté sur la guerre.
Il était assez porté sur la guerre, ouais. Il était assez belliqueux.
Il festoyait, il aimait bien.
Voilà. Alors il aimait bien la fête, mais il faisait pas que ça quand même. Il avait un peu des appétits de territoire vers ses voisins. Et pour y arriver, il avait besoin de bateaux notamment. Et à l'époque, les bateaux, on les construisait en bois.
Et alors notre arbre, il cause, je repars là, il peut être bavard notre Quercus.
Oh, puis ils peuvent être bavards, et puis ils peuvent être bavards tant par le sol que par l'air.
Alors, par le sol, c'est donc les différentes indications, si on doit résister, alors si on résiste à quoi par exemple?
S'il y a une attaque notamment, voilà. Revenons au cas de Tortrix, cette fameuse chenille de tordeuse verte du chêne, a la possibilité donc de grignoter un petit peu les feuilles d'arbre. Le chêne, tout de suite, il comprend qu'il a affaire à une agression. Et du coup, il va commencer à émettre des molécules d'alerte pour éviter à l'intégralité de l'arbre de se faire manger. Et ces molécules, elles vont transiter, pour certaines d'entre elles, par la sève. Et elles vont redescendre jusqu'au pied de l'arbre. Alors, dans certains cas, d'ailleurs, que ce soit avec Tortrix ou même dans le cas d'autres attaques qui vont attaquer le bois en particulier, on a des espèces qui attaquent le bois. Par exemple, Cérambyx, c'est un coléoptère dont la larve se nourrit du bois en profondeur. Donc notre chêne, il l'aime pas trop, Cérambyx. Et donc, il va tout de suite, dès qu'il subit l'attaque, essayer de former les molécules. Donc il va transmettre des messages chimiques jusqu'aux feuilles pour dire « attention, attaque de Cérambyx ». Et donc notre chêne va fabriquer des molécules pour améliorer la résistance du bois et rendre ce bois indigeste pour la larve. Mais beaucoup de ces molécules vont descendre et vont, via les racines, puis le mycélium, se répandre dans le sol.
Sauf que notre autres arbres vont être au courant de...
Eh bien oui, parce que un mycélium n'est jamais connecté qu'à un seul arbre. Il est connecté à l'ensemble de la communauté des arbres qui se trouve dans la forêt. Et donc, ces molécules, via le mycélium, vont aller jusqu'aux autres arbres voisins qui vont tout de suite être alertés qu'il y a une attaque et qu'il faut se préparer à se défendre.
Laissons quelques instants ce sol sableux sur ces anciennes landes et nous allons avoir une petite pause musicale. Alors, ce ne sera pas du Daft Punk parce que les marchands de casques de moto sont en deuil depuis leur séparation tragique, mais on a quand même choisi cette chanson dédiée à cet arbre.
Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filets d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient. Des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ces petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en but au lazy, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amour tenant une racine en main. Comme il semblait content, comme il semblait heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent planter. Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, les chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'enfuirent un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis, qu'il n'y a pas de chêne en paradis.
Ah bah je vous rassure, hein, notre chêne il est bien droit, donc il a pas terminé du tout au feu, loin de là. Les chiens ne lèvent peut-être pas la patte sur lui, mais les chevreuils et les sangliers, ils adorent se frotter à son pied.
On est tombé sur un arbre. On est tombé sur un arbre.
CO2, mon amour.
Il faut mieux tomber sur un arbre que de rentrer dedans.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Avec Denis Chessou.
Vous voyez bien que la chance existe.
Sur France Inter.
Ah bah non, nous on n'est pas rentré dedans. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce chêne a toujours précédé donc les humains. Vous le trouvez d'ailleurs sur le képi des généraux. Vous le trouvez aussi chez les demi-dieux du stade, hein, puisque les Hellènes donc les honoraient avec ses feuilles. Et dans l'Antiquité méditerranéenne, que l'on fût grec, romain ou hébreu, eh ben, le monde n'allait pas sans chêne. La vie de Laurent Tillon, auteur de « Être un chêne », non plus.
Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. »
Donc on a devant nous un être qui d'ailleurs a un nom dans le livre, parce qu'il s'appelle Fagus.
Oui.
Et c'est lui qui, à un moment dans sa croissance, va commencer à concurrencer et à poser problème.
À notre chêne.
À notre chêne.
Quercus. Mais alors, quand même, entre Quercus et donc notre Fagus, il y a quand même toujours une distance. C'est-à-dire qu'on se respecte aussi entre les arbres.
Exactement.
Même si on doit cirer la bourre pour avoir donc la même lumière, parce que c'est quand même ça le boulot d'un arbre, il y a quand même cette distance où on se dit, bon, ok, nous ne sommes pas de la même famille, mais malgré tout, nous sommes des arbres et on sait se tenir.
Exactement. Le Quercus est juste là, sur la droite, je vous le présente. Donc, avec son houppier qui est bien développé, même si il est un peu coincé entre d'autres arbres. Mais pour lui, ce n'est pas un problème, parce que par rapport aux autres, c'est celui qui a le bourgeon terminal le plus haut, à 32 mètres, dans secteur de forêt. Et en fait, on voit bien, il y a une petite distance, comme une petite zone de sécurité pour éviter les blessures entre les arbres, entre eux. Et donc, entre Fagus d'un côté et Quercus de l'autre, il y a effectivement cette distance. Et si vous levez la tête, regardez bien en haut, on voit qu'effectivement, il y a presque 50 cm, 1 mètre par endroit, entre les branches les plus proches de Fagus et de Quercus.
Alors, quand on parle de biomasse, faut juste rappeler que 98% de sa biomasse, c'est du tronc, c'est des branches, c'est des racines. En fait, il reste 2% uniquement pour les feuilles.
Oui, exactement.
Pour les panneaux solaires, en gros.
Pour les panneaux solaires, pour les usines chimiques, pour les cuisines, pour l'infirmerie, pour l'hôpital, pour en fait toute cette fonction-là. Et c'est ça d'ailleurs qui est étonnant finalement dans les arbres, c'est qu'on peut se poser la question, en fait, c'est quoi un arbre ? En fait, c'est un multiple organisme qui est assez complexe et qui fait que chaque branche qui est raccrochée à une autre et presque indépendante les unes des autres. Et elle va pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que voilà, l'arbre, il n'a pas de système central, il n'est pas comme nous, il n'a pas un cœur, il n'a pas certains organes qui remplissent une fonction pour l'ensemble du corps. En réalité, chaque branche, chaque feuille remplit l'ensemble des fonctions. Et ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, si l'une des branches disparaît, c'est pas forcément dramatique pour lui. Lui, en fait, il va s'en sortir. Toutes les autres peuvent être capables de prendre le relais. Voire, à un moment donné, quand une branche disparaît, il y en a une autre en dessous qui avait développé une sorte de petit feuillage vestigial et qui va, à ce moment-là, profitant de cette trouée avec la lumière qui va venir lécher les feuilles, ben, prendre tout son essor pour monter et d'un seul coup va pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est quand même magique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment un organisme pluriel, finalement, un arbre.
Laurent Tillon, moi je suis un sanglier, j'adore les chênes. Mais en fonction en fait des glands qui vont tomber, on aura plus ou moins de petits aussi chez le sanglier.
Oui, il adore les glands parce que les glands sont très nourrissants. Ils sont riches en amidon, ces sucres qui sont des molécules un peu complexes, mais qui vont servir de réserve après pour permettre à la plantule et à la petite radicelle, cette première racine qui va s'enfoncer dans le sol et qui va permettre ensuite de donner ce petit chêne.
C'est vachement résistant d'ailleurs.
Et c'est très résistant. Parmi les différentes espèces d'arbres qu'on trouve en forêt, chaque espèce a sa manière de s'implanter dans le sol. Il y a de l'enracinement de surface, il y a de l'enracinement en profondeur.
En pivot. Oui.
En pivot. Et puis, vous avez chez le chêne un peu le mélange des deux. Et c'est ce qui renforce complètement son ancrage dans le sol et puis sa capacité à la fois à aller chercher l'eau en profondeur et puis à la fois à récupérer tous les éléments, même les gouttes d'eau, par exemple, du printemps ou de l'été qui pourraient tomber, il les récupère très vite comme ça.
Et donc nos sangliers, en fonction de la nourriture, comme beaucoup d'animaux,
dès qu'il y a beaucoup de glands, ils viennent, ils s'en nourrissent un maximum et ça booste complètement leur capacité à se reproduire. Et on peut avoir parfois deux, voire trois portées de sangliers maintenant par enfant.
Tu vois, si je pose ma main sur la branche d'où vient de s'envoler cet oiseau, eh bien, je me sens relié à lui. En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elles plongent dans le ciel. Elles attendent le vent et le soleil. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Ah, on entend un pic noir. Il va nous faire une petite loge, là, quelque part, non?
Eh bien, il y en a notamment sur Fagus, en hauteur. Alors, ce pic noir en particulier, oui. C'est assez drôle, parce qu'il s'est installé dans ce petit secteur, c'est son territoire. Donc, sur Fagus, il a fait une loge, et il en a fait une autre, en face, là, juste au bas du houppier, à 7-8 mètres de hauteur. Et c'est là qu'il loge en ce moment. Ouais. Alors, c'est assez marrant, parce qu'il est assez timide, donc il faut que je fasse attention quand je viens, de pas trop le déranger, notamment le soir, quand il vient à nouveau s'abriter dans sa loge.
Je crois que c'est le plus balèze des pics. Hein.
Ah, c'est le plus balèze des pics. Ouais. C'est vraiment le plus grand. Il était absent de nos forêts au moment de la seconde. Il recommence, il appelle. Ça, c'est le cri posé. Donc, ça veut dire que dans quelques instants, il voudra revenir vers son être pour s'abriter.
Tu attends un petit peu, c'est pas long, hein. Ça va être la fin du reportage, mais... Et dans notre grande série « Laissons vivre les arbres morts », bah évidemment que c'est nécessaire, et c'est le cas d'ailleurs ici, hein, de laisser donc des branches, enfin une forêt propre, ça va pas quoi.
Non, une forêt propre, ça va pas, parce que déjà beaucoup d'espèces réclament d'avoir ce bois mort à disposition. 30% des espèces qu'on appelle saproxyliques dépendent du bois mort. Et parmi elles, beaucoup sont rares, beaucoup ont quasiment disparu de nos paysages simplement parce que pendant des centaines d'années, on a fait la chasse au bois mort. C'est avec le bois mort qu'on allait se chauffer, donc on le ramassait. Et maintenant, on fait un effort particulier pour le maintenir, ce bois mort, parce qu'on sait qu'il contribue en fait au bon fonctionnement de l'écosystème forestier.
À la fois, on est dans du silence habité, parce qu'évidemment, une forêt, c'est jamais silencieuse, heureusement. Et puis, de se dire, voilà, nous, on est de passage, quoi. Il va nous voir passer, ce quercus, encore, là.
Ouais. Quand je suis arrivé au pied de cet arbre-là, parmi les toutes premières fois, je me posais la question de savoir ce qu'il avait bien pu vivre. Et c'est vrai, quand on est au pied d'un arbre, qu'on ne sait pas bien quel âge il a, mais qu'à partir d'une certaine taille, 70, 80, 90 centimètres de diamètre, on se doute bien qu'il en a vu passer des gens. Et on se doute aussi, s'il reste en place, qui va en voir passer d'autres. Ça a ça d'intéressant, l'arbre aussi, c'est que ça nous fait vraiment prendre conscience du caractère un peu éphémère de notre passage et du rôle qu'on doit avoir finalement dans notre environnement, et que c'est important de le préserver, c'est important d'y être attentif, et puis c'est important d'aller au contact de cette nature dont finalement on a tant besoin. On l'aperçoit, le pic noir, il était un petit peu plus haut sur un pied de chêne, il se rapproche tout doucement.
Ah, ça y est,
voilà, on l'aperçoit, il est un petit peu plus loin. Ah, lui, il a contribué vraiment à apporter une vie nouvelle à cette forêt. Il envole.
Hop.
Il se rapproche.
Ça y est.
On l'aperçoit bien, avec son vol un peu saccadé. C'est-à-dire qu'il a de temps en temps, il donne des coups d'aile qui lui donnent de l'élan, qui lui permettent de monter. Puis ouais. Après, il redescend un petit peu, ça fait comme des vagues, mm-hmm. jusqu'au moment où il arrive sur une branche pour se poser. Ouais. Et là, tout à l'heure, on parlait de tous les insectes qui se nourrissent du bois. Lui, sa particularité, c'est d'aller gratter l'écorce, et avec sa langue qui est très très longue, le long de laquelle il y a comme des petits picots,
il va aller fouiller,
dès qu'il va trouver un trou, il va glisser sa langue qui est très très longue, et il va attraper la larve pour l'amener jusqu'à son bec et la dévorer.
Bon, on va laisser notre pic noir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, et souhaiter donc à Quercus? Bah, juste rappeler par exemple que des régions comme le Quercy, bah, ça veut bien dire que c'était une région de chêne. Hein.
Exactement.
C'était ça.
Bah, ce qu'on peut lui souhaiter à Quercus, c'est de vivre le plus longtemps possible. On connaît des chênes dans certaines forêts, même dans certains villages, qui peuvent atteindre des âges assez canoniques, de l'ordre de 600, 800. En forêt de Białowieża, en Pologne, on connaît même des chênes de plus de 1000 ans. Donc pourquoi pas Quercus dans cette histoire-là? Et puis... ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est... Moi, j'ai eu une grande chance, c'est d'avoir la possibilité et l'opportunité de partager une relation et une connivence, en tout cas, avec cet arbre qui m'a amené à réfléchir sur mon existence, sur ma place dans la société et sur le rôle que je pouvais jouer aussi vis-à-vis de la nature. Ce que je souhaite, c'est que le maximum de gens aient la possibilité de vivre la même chose. Il n'y a que du positif, en fait, d'aller au contact de la nature. Il n'y a que du positif, en particulier, d'aller en forêt et de se connecter aux arbres. Donc, ça apporte tellement de bien-être qu'il faut qu'un maximum de gens puissent en profiter. Denis, venez voir, regardez. Voilà, le Pic Noir, il est vraiment au niveau de la loge de Fagus. Il n'est pas loin d'entrer dans la loge. Et voilà, ça y est, il est rentré dans la loge. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est un spectacle absolument extraordinaire.
Bon, grand merci, Laurent Tillon.
Merci beaucoup, Denis.
Puis à bientôt.
À très bientôt.
Salut, Quarkus.
Parmi les 3000 milliards d'arbres qui poussent sur la peau de la Terre, on vous en a donc présenté un. Alors je vous rassure, hein, il est assez protégé, il va pas être découpé en rondelles, il a 240 ans, il est au mi-temps de sa vie, donc il va continuer sa belle histoire et peut-être qu'il y a d'autres regards comme ça, donc d'amitié, qui se poseront sur lui. En tout cas celui de Laurent Tillon, vous le retrouvez dans « Être un chêne » sous l'écorce de Quercus aux éditions Actes Sud. Allez, on va quitter notre arbre, non sans avoir remercié Benjamin Troncin à la technique, Camille Blanès, Xavier Pessugia qui a colorisé donc cet arbre, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et donc la semaine prochaine, eh ben, on va aussi être en pleine nature avec deux hommes que vous connaissez, hein, ce sont mes amoureux de la montagne, Jean-Michel Bertrand, l'homme de la vallée des loups, Christian Couloumi, donc un duo dans la neige avec des traces de loups garanties au milieu des mélèzes, cette fois dans le Champsaur haut alpin. Le podcast, vous en avez l'habitude, hein. Abonnez-vous au podcast de France Inter, de CO2 Mon Amour, de La Tulu Mon Petit Loup, que vous retrouverez à 17h50 aujourd'hui. Le Twitter Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche.